Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Comme beaucoup, vous pensez peut-être que tout pays devrait tout mettre en œuvre pour doper ses exportations, n'est-ce pas? C'est une idée répandue, presque instinctive, dans l'univers de l'économie mondialisée où les exportations sont souvent perçues comme le moteur de la croissance et de la richesse nationale. Mais si je vous disais que cette vérité n'est pas universelle? Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur d'une réflexion qui dépasse les apparences et les idées préconçues. Ensemble, explorons l'exemple de la Chine, un géant économique qui a longtemps misé sur les exportations pour asseoir sa croissance. Pourtant, derrière les chiffres flatteurs et les records commerciaux, se cachent des réalités complexes et des défis inattendus. Est-il possible que cette stratégie, considérée comme une formule magique pour la prospérité économique, ne soit pas la panacée que nous imaginons? Préparez-vous à remettre en question certaines idées reçues et à découvrir les nuances subtiles qui définissent une croissance économique réellement durable et équilibrée. L'économie chinoise est en proie à un ralentissement notable que les chiffres du PIB ne révèlent pas complètement. Bien qu'indiquant une croissance, ces chiffres peuvent masquer des réalités sous-jacentes moins reluisantes. Cette situation est aggravée par une stratégie gouvernementale axée sur l'accroissement des investissements, indépendamment de leur rentabilité ou de leur efficacité économique. Il faut bien comprendre que la mesure du PIB ne fait pas la distinction entre l'activité qui augmente la richesse d'un pays et celle qui ne le fait pas. L'orientation des prêts vers des secteurs spécifiques, privilégiés par le gouvernement, contribue à un gonflement artificiel des statistiques du PIB sans nécessairement générer une croissance économique réelle et durable. La dette finit alors par augmenter plus vite que le PIB. Ce phénomène est illustré par le secteur immobilier chinois qui, après avoir longtemps stimulé l'économie nationale, est aujourd'hui source de difficultés. L'effondrement de ce secteur a non seulement ralenti l'activité de construction, mais a également érodé la richesse des ménages et affaibli la confiance des consommateurs, exacerbant ainsi le ralentissement économique. La situation est d'autant plus préoccupante que la Chine fait face à une déflation significative, les prix à la consommation enregistrant leur plus forte baisse depuis 15 ans, signalant une contraction de la demande intérieure. Afin de relancer la croissance, les décideurs politiques chinois orientent désormais les investissements vers le secteur manufacturier et l'exportation, plutôt que vers l'immobilier et les infrastructures. Cette réorientation stratégique, bien qu'elle puisse soutenir temporairement la croissance du PIB, risque de provoquer des frictions commerciales accrues. Les pratiques de dumping et de surproduction ont déjà suscité des inquiétudes et des mesures réactives de la part de divers partenaires commerciaux, dont les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, le Vietnam et la Turquie. Ces tensions mettent en lumière les complexités croissantes du commerce international et les défis inhérents à une stratégie de croissance fondée sur l'exportation. Il convient de noter que la dépendance à l'égard des exportations pour stimuler la croissance économique n'est pas un phénomène propre à la Chine. D'autres économies importantes, telles que le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud, ont également adopté des stratégies similaires, caractérisées par une part manufacturière disproportionnée dans leur PIB et une consommation intérieure relativement faible. Cependant, cette approche présente un paradoxe fondamental. Tous les pays ne peuvent pas simultanément augmenter leurs exportations tout en réduisant leurs importations. Si chaque pays tente d'augmenter ses exportations tout en limitant ses importations pour maintenir un excédent commercial, cela crée une situation où l'offre globale de biens et services destinés à l'exportation excède la demande mondiale. En d'autres termes, pour qu'un pays puisse exporter, il doit y avoir un autre pays disposé à importer ses produits. Si tous les pays cherchent à exporter plus qu'ils n'importent, il en résulte une incohérence, car il ne peut y avoir d'exportation sans importation correspondante quelque part ailleurs dans le monde. La situation actuelle révèle un moment décisif pour les politiques économiques à l'échelle mondiale. D'une part, les économies excédentaires comme la Chine cherchent à maintenir leur croissance par une focalisation accrue sur les exportations. D'autre part, les économies traditionnellement déficitaires, telles que les États-Unis et le Royaume-Uni, adoptent des politiques industrielles visant à réduire leurs déficits commerciaux, potentiellement par des moyens protectionnistes. Cette situation interroge sur la pérennité des modèles économiques centrés sur l'exportation. Elle amène également à réfléchir aux stratégies que les nations peuvent adopter pour s'orienter dans un contexte mondial à la fois complexe et interdépendant. L'objectif est d'éviter les déséquilibres susceptibles d'engendrer des tensions commerciales et une instabilité économique à l'échelle internationale. Le modèle de croissance économique suivi par la Chine, caractérisé par une rapide expansion initiale suivie d'une accélération moins saine due à l'augmentation de l'endettement et menant finalement à une phase d'ajustement difficile, n'est pas propre à ce pays. Plusieurs nations ont emprunté cette voie par le passé, avec un schéma récurrent où une forte croissance initiale est inévitablement suivie par des complications liées à une dette excessive. Le modèle économique en question repose sur l'intervention stratégique de la banque centrale et du gouvernement pour favoriser la production et l'exportation en maintenant la monnaie nationale à un niveau artificiellement bas. Cette pratique fonctionne comme une taxe indirecte sur les importations et une subvention pour les exportations, redirigeant la richesse des consommateurs, qui sont pénalisés par des prix plus élevés sur les biens étrangers, vers les entreprises exportatrices qui bénéficient de conditions de marché plus favorables. Parallèlement, la croissance des salaires est intentionnellement maintenue en deçà de l'augmentation de la productivité. Cette politique a pour effet de transférer la richesse des travailleurs aux employeurs, en permettant à ces derniers de jouir de coûts de main-d'œuvre réduits tout en augmentant leur marge bénéficiaire et leur compétitivité sur les marchés internationaux. Cette dynamique renforce le secteur de l'exportation, mais peut également contribuer à une stagnation du pouvoir d'achat des ménages et à une inégalité croissante au sein de l'économie. La répression financière est une autre facette de ce modèle, caractérisée par des taux d'intérêt maintenus en dessous de leur niveau naturel ou d'équilibre par la banque centrale. Cette mesure favorise les emprunteurs, notamment les entreprises et le gouvernement, en leur offrant un accès à des capitaux à faible coût, au détriment des épargnants qui voient le rendement de leurs économies diminuer. En pratique, cela signifie un transfert de richesse du secteur des ménages, traditionnellement épargnant, vers les secteurs emprunteurs de l'économie, favorisant ainsi l'investissement et l'expansion des capacités de production. Ces interventions économiques sont conçues pour maximiser la production tout en supprimant la consommation intérieure, ce qui engendre une surproduction qui doit être absorbée par les marchés étrangers et accroît ainsi la dépendance aux exportations. L'excédent de production rend nécessaire un excédent commercial pour écouler les biens non consommés localement en raison de la suppression de la demande intérieure. Les importations deviennent de fait moins attrayantes et plus coûteuses pour les consommateurs locaux, non pas en raison d'une augmentation directe de leurs prix, mais parce que le pouvoir d'achat des ménages est réduit par les transferts de richesses favorisant la production et l'exportation. Ces politiques peuvent également impliquer des subventions croisées entre secteurs, où certaines industries, comme celle de l'énergie, peuvent être contraintes de vendre à des prix inférieurs au marché pour soutenir la compétitivité dans d'autres pans de l'économie. Ces transferts internes complexifient l'analyse des impacts commerciaux et économiques de ces politiques. Le cas de la Chine illustre de manière frappante ces dynamiques, avec une économie caractérisée par une consommation intérieure modeste par rapport à son PIB, reflétant un déséquilibre entre production et consommation qui n'est pas attribuable à des différences culturelles, mais plutôt à des choix politiques et économiques délibérés. Ce modèle, bien que bénéfique pour la croissance économique à court terme, soulève des questions quant à sa durabilité à long terme. Les déséquilibres qu'il engendre, tant au niveau national qu'international, nécessitent des ajustements qui peuvent être difficiles à réaliser, surtout si l'ancien modèle a créé des institutions et des constituants qui bénéficient de la situation existante et résistent au changement. La transition vers un nouveau modèle économique, nécessaire lorsque l'ancien devient obsolète, est souvent entravée par ses forces, rendant les ajustements économiques nécessaires particulièrement difficiles à mettre en œuvre. La stratégie économique adoptée par la Chine, axée sur la stimulation de la production et des exportations au détriment de la consommation intérieure, n'est pas un cas unique dans l'histoire économique mondiale. Cette approche a été également observée dans divers pays à différentes époques, notamment aux États-Unis durant les années 1920, en Union soviétique dans les années 1960, au Brésil dans les années 1970 et au Japon dans les années 1980, chacun avec ses particularités et contextes historiques. L'Allemagne contemporaine offre un exemple notable de cette stratégie, avec une économie qui a longtemps bénéficié d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, de relations de travail harmonieuses et surtout d'une croissance salariale modérée. Cette dernière a été un facteur clé soutenant la compétitivité des exportations allemandes. Dans les années 1990, l'Allemagne était souvent perçue comme une économie en difficulté avec des déficits courants fréquents. Cependant, avec l'avènement de l'euro en 1999 et une volonté politique de s'attaquer au chômage élevé, un consensus national s'est formé autour de la modération salariale en échange de l'emploi. Cette politique a permis de maintenir les coûts unitaires de la main-d'œuvre à un niveau bas, voire négatif dans certaines années, contrastant fortement avec d'autres économies développées où ces coûts ont grimpé. Cette dynamique a été un facteur contribuant à la crise de la dette souveraine européenne de 2011 en exacerbant les déséquilibres économiques au sein de l'UE. Cependant, le modèle allemand est confronté à des défis majeurs qui pourraient remettre en question sa pérennité. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, l'inflation et une posture syndicale de plus en plus affirmée menacent de mettre fin à l'ère des salaires bas et stables. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie et l'arrêt de l'approvisionnement en gaz bon marché en provenance de Russie, ajoutées à la fermeture des centrales nucléaires, pourraient éroder l'avantage compétitif de l'Allemagne en tant que puissance exportatrice. Le modèle de croissance par l'exportation est de plus en plus remis en question dans un contexte mondial où les pays cherchent à protéger leur marché intérieur. Les États-Unis, sous les administrations Trump et Biden, ont manifesté un intérêt croissant pour les déséquilibres commerciaux, adoptant des politiques protectionnistes qui pourraient se renforcer à l'avenir. De manière similaire, les discussions politiques en Europe et aux États-Unis évoquent désormais des stratégies économiques et de sécurité nationale qui s'éloignent des idéaux de marchés mondiaux libres et ouverts, privilégiant plutôt la force économique nationale. Le défi de l'absorption de la surproduction manufacturière mondiale reste entier. Alors qu'il a été suggéré que les économies d'Amérique latine et d'Afrique pourraient jouer ce rôle, le manque d'investissements étrangers nécessaires pour soutenir de tels déficits commerciaux à long terme rend cette option peu viable. Les économies excédentaires, souvent fières de leur frugalité et de leur éthique de travail, doivent reconnaître que les déséquilibres commerciaux ne sont pas uniquement le résultat de vertus nationales, mais aussi de politiques économiques ciblées. Les stéréotypes nationaux qui émergent dans les discussions sur les déséquilibres commerciaux masquent souvent les véritables dynamiques économiques en jeu. Dans un monde où la demande est limitée, la capacité d'un pays à importer devient cruciale pour les pays exportateurs qui dépendent fortement des marchés importateurs pour écouler leurs produits. Ainsi, la capacité des pays à maintenir ou augmenter leurs importations est essentielle pour soutenir les économies axées sur l'exportation. Les pays importateurs sont donc un moteur essentiel de la demande mondiale, en particulier pour les nations qui cherchent à vendre leurs biens et services à l'étranger. L'histoire montre que dans les conflits commerciaux, les grands exportateurs sont souvent les plus vulnérables. Ainsi, alors que les subventions, la manipulation des taux de change et la compression des salaires peuvent servir d'armes offensives dans une guerre commerciale, les taxes douanières et autres barrières commerciales servent de défense, soulignant l'importance de la régulation et de l'équilibre dans les relations commerciales internationales. Les taxes douanières, souvent perçues comme un moyen simple de protéger les industries locales en augmentant le coût des biens importés, ont en réalité des effets économiques bien plus complexes et nuancés. Michael Pettis, dans son livre « Le Grand Rééquilibrage », explore en profondeur comment les taxes douanières influencent l'économie non pas seulement en modifiant les habitudes de consommation, mais en affectant le revenu réel des ménages et la dynamique de l'épargne et de l'investissement à l'échelle nationale. Lorsque des taxes sont appliquées sur des biens qui ne peuvent être ni substitués par une production locale, ni évités en raison de leur nécessité, cela entraîne une réduction du pouvoir d'achat des ménages. Cette diminution du revenu réel peut conduire à une baisse de la consommation intérieure, ce qui, paradoxalement, peut réduire le déficit commercial d'un pays si le gouvernement utilise les revenus des taxes de manière spécifique, par exemple pour rembourser la dette publique, au lieu d'augmenter les dépenses gouvernementales. L'effet paradoxal vient du fait que, même si les taxes douanières augmentent le coût des importations, elles ne mènent pas directement à une substitution par des biens locaux ou à une amélioration de la compétitivité des industries locales, comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, ces taxes réduisent le pouvoir d'achat des ménages et diminuent la consommation intérieure, ce qui peut indirectement réduire le déficit commercial, non pas en renforçant les secteurs locaux, mais en diminuant la demande globale pour les biens, y compris les importations. Dans le contexte actuel, les pays avec un déficit commercial peuvent se sentir contraints d'adopter des politiques restrictives qui peuvent nécessiter des ajustements significatifs de la part des pays excédentaires. En effet, les pays excédentaires, qui sont habitués à compter sur leurs surplus commerciaux pour stimuler leur croissance économique, pourraient devoir réorienter leurs économies vers une consommation intérieure plus forte ou développer d'autres marchés d'exportation. Ces ajustements sont souvent difficiles et peuvent entraîner des tensions économiques et politiques. Ils impliquent souvent de repenser la distribution de revenus à l'intérieur des frontières nationales ou de faire face aux conséquences contractantes de politiques protectionnistes. L'ère contemporaine, marquée par un appel croissant au protectionnisme parmi les économies affichant des déficits commerciaux et une méfiance accrue à l'égard de la dépendance envers les biens essentiels produits par des régimes autoritaires, pose de sérieux défis à la stratégie de croissance économique fondée sur l'exportation. La critique de la Chine envers les politiques de l'UE, qu'elle considère comme du protectionnisme, est révélatrice de tensions plus larges, où les pays occidentaux expriment des inquiétudes quant à l'accès au marché chinois et aux pratiques commerciales perçues comme inéquitables. Ces tensions soulignent une réalité complexe où les politiques protectionnistes et interventionnistes bien qu'elles puissent être présentées comme des mesures de sauvegarde nationale, ont souvent des effets bilatéraux et peuvent exacerber les déséquilibres commerciaux internes et externes. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que les taxes et autres instruments commerciaux, tels que les subventions et la manipulation des devises, ne se limitent pas à des ajustements sectoriels mais ont des répercussions profondes sur l'ensemble de l'économie. Ils influencent les taux d'épargne et d'investissement et, par extension, l'équilibre commercial global d'un pays. Ainsi, toute politique, qu'elle soit explicitement conçue comme une intervention commerciale ou non, qui modifie le rapport entre la production, la consommation et l'investissement total, a le potentiel d'affecter l'équilibre commercial. L'accord syndical allemand de 2000 en est un exemple, illustrant comment des décisions apparemment internes peuvent avoir des implications commerciales larges. Cet accord de 2000, souvent mentionné dans le contexte des réformes du marché du travail et des politiques économiques en Allemagne, fait référence à une série de mesures et d'ententes qui ont été mises en place pour augmenter la compétitivité de l'économie allemande. Cela incluait des réformes visant à modérer les coûts salariaux, à augmenter la flexibilité du marché du travail et à encourager l'investissement dans les secteurs productifs. Cela a été fait dans le but de maintenir les coûts de production bas et d'améliorer la compétitivité des exportations allemandes. En conséquence, l'Allemagne a pu maintenir un secteur manufacturier fort et réaliser d'importants excédents commerciaux. Toutefois, bien que ces mesures aient renforcé la position commerciale de l'Allemagne, elles ont également eu des implications pour l'économie mondiale. En maintenant des salaires modérés et en se concentrant sur les exportations, l'Allemagne a accru ses excédents commerciaux aux dépens de la demande intérieure et de la consommation, ce qui a contribué à des déséquilibres commerciaux avec ses principaux partenaires. Ces déséquilibres sont devenus un sujet de préoccupation, car ils reflètent des différences dans les taux d'épargne et d'investissement entre les pays, conduisant à des tensions économiques et politiques. Ainsi, l'accord syndical allemand de 2000 sert d'exemple de la manière dont les politiques intérieures, même celles qui ne sont pas explicitement conçues comme des interventions commerciales, peuvent avoir un impact significatif sur l'équilibre commercial global et contribuer à la dynamique des déséquilibres commerciaux mondiaux. Pétis conclut que le système commercial et de capitaux mondial, dans son état actuel de déséquilibre et de distorsion, nécessite une réévaluation profonde des politiques économiques pour favoriser un environnement plus équilibré et moins protectionniste, bénéfique pour l'économie mondiale dans son ensemble. La contraction du commerce international présente des risques significatifs pour la croissance économique mondiale et le PIB global. Une compréhension qui remonte aux leçons durement apprises lors de la Grande Dépression des années 1930. À cette époque, malgré la connaissance des effets néfastes des politiques protectionnistes, les nations ont poursuivi des stratégies commerciales autarciques dans le but de sauvegarder leurs intérêts nationaux, ce qui a finalement exacerbé la crise économique mondiale. Une étude de 2009 de Barry Eschengreen et Douglas Irwin sur les racines de la Grande Dépression met en lumière la tendance des pays à adopter des politiques protectionnistes dans le contexte d'une demande mondiale en contraction. Ces pays cherchaient non seulement à stimuler la demande intérieure, mais aussi à capturer une plus grande part de la demande nette étrangère. L'analyse révèle que l'adhésion à l'étalon or a joué un rôle clé dans la décision des pays d'adopter des mesures protectionnistes. Les pays membres de l'étalon or étant plus enclins à imposer des restrictions commerciales, faute de pouvoir dévaluer leur monnaie. A l'inverse, les pays qui ont abandonné l'étalon or et dévalué leur devise ont connu des améliorations significatives de leurs soldes commerciaux, souffrant moins de la contraction économique mondiale. Les pays restés fidèles à l'étalon or, incapables d'ajuster leur monnaie, ont subi de plein fouet les effets de l'ajustement économique, leurs importations devenant plus compétitives par rapport aux productions nationales. Cette situation historique souligne la complexité des guerres commerciales et leur potentiel de nuire à toutes les économies impliquées. Les pays déficitaires sous-estiment souvent la difficulté du rééquilibrage pour les pays excédentaires, tandis que ces derniers ne reconnaissent pas leur vulnérabilité face aux restrictions commerciales imposées par les pays déficitaires et leur capacité limitée à contre-attaquer. Dans ce contexte, les économies fortement dépendantes de l'exportation, telles que la Chine, le Japon et l'Allemagne, sont particulièrement exposées au risque en cas de conflit commercial, leur dépendance au commerce international rendant une grande partie de leur main-d'œuvre vulnérable. Quand ces économies rencontrent des obstacles au commerce international, comme des taxes douanières élevées, des quotas, des sanctions ou d'autres formes de barrières commerciales, la demande pour leurs exportations peut diminuer considérablement. Cette baisse de la demande peut entraîner une réduction de la production, des licenciements ou des fermetures d'usines dans les secteurs dépendants des marchés d'exportation. La vulnérabilité de la main-d'œuvre dans ce contexte vient du fait que, dans une économie fortement axée sur l'exportation, un grand nombre d'emplois sont directement ou indirectement liés au succès de ces exportations. Si les marchés d'exportation se contractent ou deviennent moins accessibles, cela peut entraîner une perte d'emploi, une augmentation du chômage et une baisse des revenus pour les travailleurs de ces secteurs, affectant ainsi le bien-être économique général de la population dans ces pays. Cette situation peut également avoir un effet en cascade sur l'économie intérieure. car la réduction des revenus et de l'emploi dans les secteurs exportateurs peut entraîner une baisse de la consommation intérieure affectant d'autres secteurs non liés directement au commerce international. Ainsi, la dépendance excessive au commerce international pour le maintien de l'emploi et de la croissance économique rend ces économies particulièrement sensibles aux fluctuations et aux politiques du commerce mondial. Face à une demande mondiale décroissante, la Chine a pris conscience de l'importance de stimuler la consommation intérieure pour soutenir sa croissance économique. Les initiatives gouvernementales visent à augmenter les revenus des ménages, à améliorer l'environnement commercial pour les entreprises privées et à stabiliser l'emploi des jeunes. Ces mesures, en redirigeant la richesse des gouvernements locaux vers les ménages, pourraient compenser la contraction des exportations nettes et, si elles sont accompagnées d'un changement vers des industries nécessitant plus de manœuvres, pourraient éviter une hausse significative du chômage. À long terme, un rééquilibrage du commerce mondial est dans l'intérêt de tous les participants. Pour que les pays déficitaires remboursent leurs dettes envers des pays excédentaires comme la Chine, ils doivent devenir des exportateurs nets de capitaux, ce qui implique de générer des excédents commerciaux pour acquérir les devises étrangères nécessaires au remboursement des dettes. Néanmoins, l'historique suggère que de tels ajustements sont peu susceptibles de résulter de décisions délibérées des décideurs politiques, mais plutôt d'une crise économique, soit brève et intense, comme aux États-Unis dans les années 1930, soit longue et graduelle, à l'image du Japon qui continue de lutter contre les séquelles de son excès d'investissement passé. Ces réflexions mettent en évidence la complexité des interactions commerciales internationales et la nécessité de politiques réfléchies pour naviguer dans le paysage économique mondial interconnecté d'aujourd'hui.